Et au sommaire de cette édition, flambée des contaminations une semaine après le reconfinement, la fermeture temporaire en raison du Covid, des urgences de l'Hôtel Dieu, ulcères des professionnels de la santé soutenus par des partis et syndicats cet après-midi à Paris. Tara Schlegel a assisté à leur manifestation. L'épidémie en pleine expansion qui a conduit le ministère de l'Éducation nationale à revoir le protocole sanitaire des établissements, toujours insuffisant, voire inapplicable selon les syndicats de lycéens. Reportage de Sarah Ders. L'élection présidentielle américaine, Donald Trump promet de se battre en justice jusqu'au bout. Joe Biden s'apprête à s'adresser à la nation. Et pourtant, aucun des deux candidats n'est déclaré vainqueur. À l'heure qu'il est, nous ferons le point sur les dépouillements en cours avec notre envoyé spécial en Pennsylvanie, Maxime Tellier. Invité de ce journal, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Santé publique France a décompté plus de 60 486 nouveaux cas de coronavirus, soit 2500 de plus que la veille et 828 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Relevé qui valide les projections de nombreux épidémiologistes selon lesquels le pic épidémique de la vague d'automne devrait être atteint dans une dizaine de jours. À des services de réanimation aux abois, il faut ajouter des mesures de déprogrammation de toutes les activités médico-chirurgicales non urgentes, comme l'a annoncé, dans l'après-midi, l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, déprogrammation dans tous les hôpitaux de la région. L'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, s'emploie elle aussi à faire face à cette phase ascendante, en fermant temporairement les urgences de l'Hôtel Dieu pour redéployer le personnel médical dans d'autres structures hospitalières. Tara Schlegel, vous avez suivi des élus et des syndicats de gauche qui ont appelé une mobilisation cet après-midi.
Oui, des dizaines de militants entourés par plein de policiers qui verbalisent. La préfecture n'a pas été prévenue. La CGT explique qu'elle voulait juste entrer dans l'Hôtel Dieu, soutenir le personnel en âge, mais les grilles sont cadenassées. Au cœur de la discorde, il y a, vous l'avez dit, la fermeture des urgences annoncée mardi. Fermeture soudaine, mais projet ancien, rappelle Maître Le Toquin. Elle est l'avocate de la CGT.
C'est une fermeture donc annoncée depuis environ une dizaine d'années et qui se fait petit à petit. Donc ils ont commencé par vider les services les plus importants de cet hôpital, les urgences. Et les urgences, ils se servent de la Covid-19 pour y parvenir, pour fermer les urgences en fait. Vous voyez ? C'est un prétexte.
De son côté, la PHP affirme devoir redéployer, dit-elle, du personnel pour renforcer notamment l'hôpital Cochin. La CGT rétorque que c'est plutôt l'Hôtel Dieu qu'il faudrait rouvrir, Olivier Camas.
On est en train de dire qu'il y a passé de l'Idrea, Ici, il y avait des l'île Réa avant, il y avait deux étages de Réa ici. Et on les a fermés. Et les locaux sont encore nickel à l'intérieur. Les fluides sont encore là, l'électricité est encore là. Pourquoi le directeur général, depuis le mois de mars, pourquoi le directeur général n'a pas réouvert deux unités ici, soit de Covid simple? Voilà, c'est ça. Il est responsable de la situation. C'est un scandale sanitaire ce qui se passe.
Aïcha est venue en voisine soutenir ses collègues. Elle travaille à l'hôpital Saint-Antoine.
La galère qu'ils vivent aujourd'hui, c'est ce qu'on vit dans nos hôpitaux. La fermeture des lits, la fermeture des services. Je suis infirmière et dans les services de Réa, on n'a pas suffisamment de personnel pour prendre en charge nos patients. Normalement, pour un service de Réa, on devrait avoir deux infirmiers, deux aides-soignants pour quatre malades. Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Hier, des collègues se sont retrouvés un infirmier pour quatre lits de Réa. Alors Martin Hirsch, il va dire sur tous les plateaux télé qu'il y a assez de personnel dans nos services, c'est faux.
En attendant, la PHP rappelle le peu de passage dans le service des urgences. 26 dimanche, 47 seulement lundi dernier. Et si on rouvrait les lits de réanimation, disait tout récemment Martin Hirsch, le patron de la PHP, il n'y a pas un seul réanimateur qui pense que ça sauverait un malade. Fin de citation.
Reportage de Tara Schlegel. 6 syndicats de fonctionnaires réclament, eux, des mesures d'urgence, parmi lesquelles des procédures de protection claires pour les agents en contact avec le public et des recrutements supplémentaires en urgence pour les nettoyages et désinfections des locaux et l'accueil des usagers, notamment des élèves. Le corps enseignant ne réclamait rien d'autre. Le ministre de l'Éducation a d'ailleurs renforcé le protocole sanitaire dans les lycées, avec tout d'abord un retour des cours à distance, à la condition toutefois de conserver 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève. À chaque établissement, son protocole. Les épreuves d'évaluation commune du nouveau bac seront également annulées au profit du contrôle continu, un nouveau protocole sanitaire jugé encore une fois insuffisant, voire inapplicable dans certains établissements. Sarah Ders.
Béchir ne fait pas partie des voix qui s'élèvent contre le protocole sanitaire renforcé. Dans son lycée à Paris, comme dans beaucoup d'autres, les élèves sont toujours entassés dans les couloirs, collés dans les escaliers, à peine séparés en classe. Ce jeune homme de première attend une nouvelle fois résigné les changements qui le concernent.
On nous a dit qu'il y avait une réunion par rapport à ces protocoles-là et qu'il y aurait des changements d'ici la semaine prochaine pour savoir si potentiellement il y aurait des cours hybrides, c'est-à-dire un demi-groupe qui vient en semaine A et l'autre qui va en semaine B, mais c'est tout ce qu'on nous a annoncé. Ça me convient, comme ça on peut au moins voir les profs une semaine sur deux, au moins avoir un contact avec le lycée et pas juste dire qu'on reste chez nous et prendre ça pour des vacances et décrocher scolairement.
Encore beaucoup d'incertitudes ajoutées aux incertitudes. Les syndicats des lycéens, qui alarment depuis septembre, déplorent le manque d'anticipation du gouvernement. Tout le monde savait qu'il y aurait une seconde vague, précise-t-il. Être en classe entière sur moins de temps ne réduit pas le risque de contamination et favorise le décrochage scolaire, creuse les inégalités sociales. Grégory Abelli, représentant du syndicat lycéen Fidèle, réclame plus de moyens humains et financiers au lieu d'un protocole sanitaire précipité.
Pour nous, le plus important, c'est vraiment le dédoublement des classes. Pour continuer d'assurer un maximum de cours en présentiel, rester au contact des lycéens pour ne pas qu'ils décrochent, pour ne pas renforcer les inégalités scolaires. Cela ne peut se faire que par l'embauche de personnel enseignant, l'embauche de personnel pédagogique qui peuvent assurer la continuité de l'apprentissage, de l'éducation qu'on se doit d'avoir.
Comme le syndicat lycéen Fidèle, l'UNEL, l'autre grand syndicat du secondaire, se joindra à la grève sanitaire mardi prochain.
La stabilité de l'Éthiopie est importante pour l'ensemble de la Corne de l'Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'alarme de la situation au Tigré, où le Premier ministre prétend avoir ordonné, je cite, une opération de maintien de l'ordre, fin de citation. Abiy Ahmed, qui quelques heures avant cette déclaration, précisait que la dite opération comportait des frappes aériennes. Trois dirigeants de l'opposition ivoirienne, dont l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, qui n'ont pas reconnu la réélection d'Alassane Ouattara, font désormais l'objet d'une enquête pour mouvement insurrectionnel, assassinat et acte de terrorisme, selon le procureur d'Abidjan. L'élection présidentielle américaine, les deux prétendants à la Maison-Blanche ont pour le moment leur chance de l'emporter. Dernier pointage, 253 grands électeurs pour le démocrate Joe Biden et 213 pour le républicain Donald Trump et des décomptes qui tiennent en haleine les deux camps dans des états dits décisifs. Bonsoir Maxime Tellier.
Bonsoir Mathieu, bonsoir envoyé, à tous.
Envoyé spécial de la rédaction dans l'un de ces états, la Pennsylvanie, qui fournit aux candidats 20 grands électeurs. Maxime, à Philadelphie comme ailleurs, semblerait-il, on compte, on recompte et on risque encore de recompter.
Oui, il reste trois états hein, principalement dont les résultats se font désirer, Géorgie, Nevada, Pennsylvanie. La Pennsylvanie donc où je me trouve et où il reste environ 100 000 bulletins à compter. Et pour l'instant, Biden mène de 13 000 voix sur Donald Trump, sachant que les bulletins seront en majorité en faveur hein, du candidat démocrate. Dans le Nevada, le démocrate est aussi en avance de 22 000 voix. Et en Géorgie, il mène de 2 000 voix. Alors Biden est donc très bien parti hein, pour gagner la présidentielle, mais les écarts sont trop faibles, moins de 1% pour que les médias américains proclame clairement un vainqueur. Et puis Donald Trump n'a pas concédé la défaite. Le président promet de se battre pour que seuls les bulletins valables soient comptés.
Maxime, patience est le mot-clé de Joe Biden, tandis que Donald Trump dit vouloir livrer combat contre quantité de fraude sans apporter de preuves. Comment, Maxime, les soutiens de l'un et de l'autre accompagnent-ils ce finish de l'élection ?
Alors, plutôt différemment, côté démocrate, il faut bien le dire, on estime que le match est plié. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a même utilisé aujourd'hui le terme de « president-elect » pour Joe Biden, président élu. Et Joe Biden, lui, a prévu de s'exprimer à 20h ce soir, heure locale de Wilmington dans le Delaware, donc à 2h du matin en France. Côté républicain, Trump est plutôt isolé. Il n'est pas suivi par les leaders de son parti au Congrès quand il dénonce des fraudes massives et un vol de l'élection. Et puis les recours, pour l'instant, ne renversent pas la vapeur. Hein, et qui, la dynamique reste en faveur de Joe Biden. Un exemple de responsable de haut gradé démocrate, le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, par exemple, a appelé à attendre les résultats. Ce sont les votes des Américains qui décideront des résultats de l'élection.
Merci à vous. Maxime Tellier, envoyé spécial de la rédaction de France Culture à Philadelphie. Bonsoir Jean-Éric Brana.
Bonsoir.
Spécialiste des États-Unis, merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas vous demander de vous pencher sur une boule de cristal, mais Nevada, Géorgie, Arizona, Caroline du Nord, Pennsylvanie, ce n'est pas la première élection américaine à l'issue incertaine, mais tout de même.
Mais tout de même, effectivement, c'est très serré. Et on a vu un retournement aujourd'hui avec la Pennsylvanie qui s'est finalement dirigée plutôt pour Joe Biden. Le Nevada qui ne bouge pas et on attend le résultat, et la Géorgie qui donne un dénouement absolument incroyable puisqu'on est à 1500 voix sur 5 millions de suffrages, il faut quand même réaliser. Donc on recompte tout et on repart encore pour un tour, c'est le supplice de la goutte et on se demande quand ça va se terminer.
Soit dit en passant, la Géorgie qui est une terre républicaine, ce serait en cas de victoire de Joe Biden une percée démocrate extrêmement rare, non ?
Mais vous avez raison de le souligner, ça fait quand même près de 30 ans que c'est pas arrivé. La dernière fois, c'était Bill Clinton, et encore, c'est parce que il y avait un candidat républicain, Ross Perot, qui avait fait chuter le candidat républicain en titre. On a exactement le même phénomène en Arizona, et peut-être même en Caroline du Nord. Bien sûr, on n'en est pas encore là, il faut finir le comptage, mais ça veut dire quand même qu'il y a eu une forte percée en terre républicaine, et de façon générale, c'est vrai que Donald Trump a pas mal reculé dans pas mal d'États, et il a surtout échoué à prendre les États qui avaient été gagnés par moins de 2% par Hillary Clinton, à savoir le Minnesota, le New Hampshire et le Maine, qui étaient tous des États qu'il visait pour essayer de faire la différence.
Jean-Éric Brana, on compte, on recompte, il y a beaucoup de décomptes, mais ça c'est un invariant ou presque lors d'une élection présidentielle américaine. On dit Joe Biden sur le parvis de la Maison-Blanche, il va d'ailleurs parler dans quelques heures, mais pour dire quoi j'ai gagné ? Parce qu'il faut pour cela que son adversaire l'appelle et concède sa défaite, ce qui est mal parti, ou bien, et j'allais y venir, ou bien que les médias le déclarent vainqueur. Et pourquoi les médias ne déclarent-ils pas vainqueur Joe Biden ? On a bien compris que les écarts étaient trop faibles.
Alors en réalité, c'est la rumeur persistante. Depuis quelques heures, les médias américains s'apprêteraient à le déclarer vainqueur.
Fox News, on parle de Fox News.
Fox News, c'est quasiment fait, puisqu'ils ont même déclaré qu'il était vainqueur en Arizona, alors que les autres ne l'ont pas fait. Mais on attend d'autres grands médias, et en particulier CNN, qui attendent que ça se bouge un petit peu encore en Pennsylvanie. Donc on va avoir dans les trois heures qui arrivent, certainement ça va bouger un petit peu de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir cette annonce qui permettrait à Joe Biden de faire cette déclaration. On dit même que Kamala Harris parlerait juste avant lui au cours de cette allocution. Et si jamais il n'y a pas cette annonce, eh bien Joe Biden fera ce qu'il fait depuis trois jours, c'est-à-dire prendre le costume présidentiel pour appeler au calme. Et pour l'instant, on voit que ça fonctionne. Si la rhétorique est très guerrière du côté de Donald Trump et de sa garde rapprochée, en réalité le pays reste vraiment calme et observe ce qui se passe dans ce décompte.
Joe Biden a déclaré, je cite, « La démocratie est parfois confuse, mais ça reste un système de gouvernance qui est envié par le monde entier. L'entêtement de Donald Trump au mieux embarrasse et au pire agace dans le camp républicain. Pourquoi selon vous ?
Oui, parce que en réalité, ces institutions américaines qui ont montré leur solidité sont encore jeunes et peuvent être encore éprouvées. Ça fait que 240 ans, rappelons-le, que ce pays a fait sa révolution. Les républicains sont aussi jaloux des institutions américaines que le sont les démocrates, et on a vu la prise de distance énorme, puisqu'il n'y a pas un mot pour soutenir Donald Trump. Il y a eu quelques voix pour le critiquer, comme Mitt Romney, qui est l'ancien candidat à la présidentielle, ou le gouverneur Hogan, qui est une personnalité du parti républicain. Pour le reste, il reste prudemment en retrait, et ça donne une impression de désert aujourd'hui autour de Donald Trump, lui qui était tellement soutenu par les parlementaires américains jusqu'à maintenant.
Bien, Jean-Éric Brana, merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner vos explications et vos analyses. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis. Quelques 150 personnes sont mortes ou portées disparues au Guatemala dans des glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes d'un cyclone qui se sont abattus ces derniers jours sur l'Amérique centrale. Bilan provisoire. Quelques mots du temps de demain pour la France métropolitaine. Demain samedi, temps marqué par une arrivée d'une perturbation par le sud-ouest et l'organisation de fortes pluies vers le Languedoc. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Ludovic Auger.